C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Imaginez des collines recouvertes d'arbres verts vifs, tellement rapprochés que si vous prenez du recul, on dirait de la mousse. Une chaleur tiède, un petit vent aux odeurs d'épices. Vous y êtes, bienvenue à la vallée de Ferney, un endroit magnifique au sud de l'île Maurice qui a failli être ravagé il y a quelques années par un projet d'autoroute, mais qui aujourd'hui, grâce à la volonté de quelques hommes, est devenu un lieu de préservation. L'île Maurice, avec la colonisation et le développement anarchique du tourisme, a perdu presque la totalité de sa biodiversité originelle. Mais ici, dans la vallée, un travail de fourmi est en cours.
Come on, baby doo.
Bonjour, je suis Arnaud Berthelot, directeur de la vallée de Ferney, à l'île Maurice. Et ben, je vous souhaite la bienvenue. Et vous êtes dans une zone ici de 200 hectares, non loin de nous, qui est une zone de conservation, qui se trouve dans un endroit très historique géographiquement. La vallée de Ferney se trouve dans un endroit où l'île Maurice a pris naissance. Ça fait quand même quelques bonnes centaines d'années. Et la vallée a connu un développement dans le passé avec l'activité des ébéniers. Et donc aujourd'hui, si vous voyez notre forêt, il y a des traces encore où on voit l'exploitation de ces ébéniers. Et là, notre but, c'est de venir recréer cette forêt dans son intégrité comme elle était il y a 400 ans de cela. Alors pour cela, nous avons un programme de réforestation et une pépinière avec toute une équipe qui travaille tous les jours. Et de là, nous travaillons sur un projet qui s'appelle la PAN, en anglais c'est le Protection Area Network. Donc c'est de venir enlever les plantes envahissantes et remettre les plantes qui y vivaient. Donc c'est un programme assez compliqué parce que le terrain et la topographie c'est glissant, c'est l'accessibilité. Et le projet sur 9 hectares. Ce projet est financé par la UNDP à travers la SEG.
Donc c'est le programme des Nations Unies pour le développement.
Exactement, exactement. Et sur ce projet de 9 hectares, nous sommes arrivés déjà à 5 hectares. Donc nous pensons d'ici, en début d'année prochaine, arriver à la totalité de la surface. Et nous avons, en dehors de cette exploitation de réforestation, de remettre en état notre forêt, nous avons aussi remis la casserelle dans son habitat.
Donc, la casserelle, c'est un oiseau.
C'est un oiseau, c'est un faucon. C'est un oiseau qui vivait ici il y a très longtemps. Et il y a environ 70 ans de cela, il y avait pas mal d'épidémies à Maurice. Donc il y a eu quand même du spraying qui a été fait avec du DTT. Donc à la naissance, les œufs avaient la coquille molle et tout. Donc il n'y avait pas eu de naissance. On était arrivé à avoir 6 paires à un moment donné. Et aujourd'hui, on est à plus de 600 paires à travers l'île. Donc qui est une totale réussite de la Mauritian Wildlife. Et ici, à la vallée, ici, nous nourrissons la casserelle tous les jours à l'heure du déjeuner. C'est une belle attraction touristique. Elles sont bien coopérantes, on doit dire. Et de là aussi, nous avons réintroduit, il y a environ 3 mois, la grosse carte verte, les coparaquites, qui est la vraie carte verte endémique qui vivait dans cette côte.
Ça ressemble à quoi?
Ben, ça ressemble à un perroquet moyen, de taille moyenne, pas un rat. Et donc, cet oiseau commence à s'adapter sur 14 oiseaux qu'on a lâchés. Nous avons environ 7 qui sont restés dans le coin et qui animent bien notre forêt. Et donc de là, nous, on se retrouve quand même avec le projet de relâcher les pigeons roses aussi dans les mois à venir. Et je pense que de là, notre mission sera vraiment arrivée à bout. Bon, pas au niveau de la réforestation, parce que notre but, c'est de faire les 200 hectares de la vallée devenir endémique. Mais au niveau de réintroduire la forêt comme elle était, c'est quand même une mission qui est arrivée à son apogée quelque part. Hein.
Mais c'est un vrai combat contre l'histoire, parce que finalement, entre l'arrivée des Néerlandais au XVIe siècle et puis jusqu'à il y a très peu de temps, la préservation de l'environnement, c'était pas du tout la préoccupation à l'île Maurice. Il y a la canne à sucre qui s'est développée sur les 2/3 de l'île, il y a le tourisme, toute cette activité économique finalement a fait en sorte qu'aujourd'hui il reste extrêmement peu de biodiversité endémique.
Alors c'est notre combat de faire découvrir cette forêt primaire qui est minuscule mais qui est extraordinaire, qui est unique. Et on a des forêts à Maurice, mais elles ne sont pas comme celles-là. Elles ne contiennent pas les mêmes bois, les mêmes arbres que vous trouverez ici. Nous avons des arbres rares en plus. Il y a une étude qui est menée pendant cette organisation que nous faisons. Et aussi faire découvrir les jeunes à travers des études pédagogiques, les sorties pédagogiques pour les écoles, et de conscientiser les enfants. On essaie de faire l'éducation des parents à travers les enfants aussi. Dans un sens à ce que, quand ils rentrent chez eux, ben, en racontant aux parents ce qu'ils ont vu, ben, on retrouve souvent des familles qui reviennent parce que les enfants visitaient la vallée. Alors la vallée, oui, point géographique, historique aussi, comme je disais au début, c'est un endroit mythique de l'île où l'île a pris naissance. Où il y a eu toute une histoire de l'île qui a commencé à deux pas du rivage ici.
Ces grands ports, en fait, c'est là où les Néerlandais ont débarqué, au XVIe siècle.
Ben exactement. Et quand on dit grands ports, on pense à Paris, à l'Arc de Triomphe. Hein. Vous allez voir la bataille du Grand Port qui a été gagnée. Hein, les îles qui entourent la passe et tout, il y a plein à raconter. Hein. Et
les bois d'ébène qui étaient tractés par les esclaves et qui ensuite partaient en Europe, c'était ici aussi.
Directement ici. On doit dire quelque part que cette exploitation a été abolie par un côté mode qui avait passé de mode, dans le sens que l'ébène, à un moment donné, n'était plus à la une. Donc au niveau menuiserie, au niveau des touches de piano et tout, peut-être qu'en Europe, il y avait d'autres bois qui avaient été plus prisés. Et c'est cela qui a ralenti aussi l'exploitation des ébéniers à Maurice, quelque part.
Come on!
Donc là, on va partir en randonnée, on va aller voir justement ce projet de reforestation.
Ah ben oui, j'espère que vous avez les chaussures adéquates. Et donc, pour aller en forêt, vous allez être un peu embêté par les moustiques. Alors, nous, on les préserve, les moustiques, parce qu'ils sont mangés par les geckos, qui sont des petits lézards. Et le gecko est mangé par la casserelle. Donc, c'est un cycle de nourriture qu'on respecte. Vous allez voir aussi qu'en marchant tout le long de la route, vous avez des troncs d'arbres marqués d'inscriptions en rouge dessus. C'était des arbres marqués pour être tronçonnés. Pour le passage du fameux highway qui devait passer cette superbe vallée. Et c'est bon de voir autour de cela, comme il y a des bois qui ont été préservés grâce au projet de la vallée.
Oui, parce que cette vallée, en fait, a failli disparaître. Il y avait, quand vous dites highway, c'est une autoroute. Hein, il y avait un projet d'autoroute qui devait passer en plein milieu de la vallée.
Carrément, la sectionner. Donc, pourquoi éliminer une belle forêt comme ça ? Ben, nous, on est contents aujourd'hui d'être là, à la vallée, de préserver ce patrimoine. Et le fait de marcher à la vallée, vous allez voir aussi la variété de plantes que vous pouvez voir sur une petite surface, qui est incroyable. Alors ça, je vais vous laisser découvrir pendant votre marche, avec Ravi, notre guide.
Ah là là, qui joli, joli, nous pas connaît qui joli, joli. Ah là là, qui joli, joli, nous l'île Maurice, qui joli, joli, causé. Ah là là, qui joli, joli, nous pas connaît qui joli, joli. Ah là là, qui joli, joli, nous l'île Maurice, qui joli, joli.
Bonjour, je m'appelle Ravi, je suis guide à la vallée Fénelin. Ben, je vous souhaite la bienvenue quand même. Mais pour l'instant, nous sommes déjà dans un point de vue, comme vous allez voir, qu'il y a des collines un peu partout, les cerfs, la végétation et la belle vue de la vallée Fénelin. Mais là, je vous emmène avec moi pour visiter un peu. En fait, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qu'il y a chez nous et de voir la richesse de la vallée Fénelin.
C'est vrai que là, on est face à un panorama absolument magnifique avec des collines couvertes de forêt. On va nous expliquer dans peu de temps que ce ne sont pas du tout des arbres endémiques de l'île Maurice. Mais c'est pas grave, on va voir qu'il y a tout un projet de restauration, justement. Et puis, on voit au loin un troupeau de cerfs, de biches. Il y en a beaucoup ici ?
Ben ouais, il y en a beaucoup. Peut-être plus que 10 000.
Et vous êtes guide ici depuis longtemps ?
Ben, ça va, je vais faire un an.
Alors vous êtes guide ? Qu'est-ce que vous montrez de la vallée de Fernet aux touristes quand ils viennent ?
Ben moi, ce que je fais, normalement, je prends les clients pour venir voir la forêt, comment il était 400 ans auparavant. C'est ça que j'essaie de sensibiliser les gens de venir voir ça, comment la forêt est. Même pas la forêt, mais comment l'île Maurice était 400 ans d'ici là.
Ça, c'est le travail de Jean-Claude Sévatian qu'on va retrouver donc tout de suite, qui va nous expliquer tout ce projet de reforestation.
Mais là, pour voir cette zone, on doit marcher un peu, disons, une 10 minutes d'ici là, jusqu'ici. Ensuite, Jean-Claude Sévatian va vous expliquer un peu les travaux techniques, scientifiques, ce qu'on fait ici, comment on a planté des plantes, qu'on a introduit des plantes qui sont endémiques ici. Ben voilà, Jean-Claude va vous expliquer un petit peu.
Allez, on marche.
C'est pas du vent, mais c'est l'émission de l'environnement chez RFI.
C'est vrai.
Bonjour, moi je m'appelle Jean-Claude Sébastien, je travaille pour une organisation non gouvernementale qui est la Motion Wildlife Foundation. et je suis employé comme botaniste et aussi comme consultant sur des projets de restauration.
Alors justement, là, on vous retrouve dans cette zone de conservation de la vallée de Ferney, juste à côté d'un tronc de bois d'ébène. Ça, c'est mythique, hein, parce que le bois d'ébène, c'est toute une histoire de l'île Maurice et c'est un peu votre combat actuel.
Exactement, comme vous dites que là, nous sommes à côté de ce bois d'ébène, ce magnifique bois et qui a été l'origine, peut-être, on dirait peut-être le début de la colonisation de Maurice quand ils ont découvert l'île et aussi ce précieux bois qui a une valeur vraiment au niveau du marché européen. Et voilà, notre histoire a commencé, mais pas plus ça. Il y a d'autres espèces encore qu'on a exploitées ici, hein, le bois d'olive, le macaque, le colophane. Donc il y a pas mal de bois qu'on a exploité sur notre île.
Et donc entre les bois qui ont été exploités et ceux qui ont été importés et qui sont devenus des arbres invasifs, résultat, il n'y a plus beaucoup de traces de la forêt originelle ici.
D'après nos données, il reste que moins que 2% de nos forêts, on dirait pour forêt primaire, et le reste c'est plus ou moins une forêt envahie par les espèces que nous avons des données aussi, qui a été introduite par l'homme, ou a été introduit accidentellement ou volontairement, mais a été introduit pour des causes, soit fruitiers, soit en embellissement, soit pour son bois, en termes de construction ou bois à feu, mais qui n'y avait pas de contrôle et aujourd'hui a envahi beaucoup de parties d'une forêt à Maurice.
Quel est le couvert forestier à Maurice aujourd'hui ?
Ben, on a, en calcul, on est en 33% de terres de forêt et 18% qui est sous culture de plantation et 13% c'est des forêts envahissantes et 2% c'est la forêt originelle.
Alors là, nous sommes justement dans une partie de ces 2% hein, dans la vallée de Ferney, donc qui est une partie originelle, mais qui est très envahie par les espèces invasives, donc des arbres qui ne sont pas originels de l'île Maurice. Donc quel travail faites-vous ici ?
On a mis un plan de travail avec le comité qui est ici à Ferney, avec notre organisation. Et moi, mon service, c'est plus de donner des conseils que comment procéder, des techniques de restauration, comment contrôler les espèces envahissantes. Et tout doucement, il y a quand même, on voit, comme vous voyez là maintenant, il y a quand même une ouverture, la forêt s'épanouit. Il semble qu'il y ait une bonne santé dans cette forêt.
Donc là, nous sommes entourés d'arbres. Quelle est la quantité d'arbres invasifs autour de nous ?
Il y a très peu ici, parce que là où nous sommes dans une zone de conservation. On a déjà commencé, il y a déjà depuis 2006 on a commencé. Mais par contre, ailleurs, il y a quand même beaucoup d'espèces envahissantes.
Notamment l'arbre du voyageur qui vient de Madagascar.
Il y a l'arbre du voyageur qui vient de Madagascar, il y a la troène qu'on appelle ici le privet qui vient de l'Inde. Aussi, on a la cannelle qui a été introduit ici pour sa culture, mais qui a été échappé dans la culture aujourd'hui. C'est aussi une espèce très envahissante dans la forêt de Ferney.
Depuis 2006, vous avez replanté combien d'arbres ?
À ce jour, on peut dire qu'on est arrivé à presque 5500 plantes qu'on a plantées. Si on a un projet de conservation, il faut qu'en long terme, et qu'en long terme, on va voir des résultats.
Est-ce qu'on est dans une forêt telle qu'elle existait réellement à l'île Maurice il y a 400 ans ?
Pour moi, dans mon expérience avec tous les travaux, toutes les visites, tous les travaux que j'ai fait en forêt, je peux dire que c'est ça la forêt mauricienne.
On passe la rivière Tarnier, mon jeune vieille grand-maman me demande qui lui fait là, les diamants, la pescabo. Ouai, ouai, mon bébé, il faut travailler pour avoir son pain. Ouai, ouai, mon bébé, il faut travailler pour avoir son pain.
Arnaud Berthelot, ouai, vous êtes donc le directeur de la vallée de Ferney. On vous retrouve là après cette fantastique randonnée dans cette forêt. Finalement, quand on pense île Maurice, dans la plupart de la tête des gens, on pense plus plage, activité marine plutôt que terrestre. Or ici, il y a un vrai potentiel.
Enfin, il y a un potentiel. Le démarrage a été dur. C'est encore dur pour la vallée de trouver une rentabilité. Comme vous savez, on est une compagnie non profitable, c'est-à-dire que tous les profits sont réinvestis dans la vallée elle-même, dans le travail de conservation. Et de là, nous avons commencé avec 1000 à 2000 touristes. Nous sommes arrivés à environ 3000 touristes, qui ne suffit pas. Alors, donc, nous essayons.
3000 touristes par an.
Par an, oui, pardon, par an. Et donc, ce qui est insuffisant malgré un bon nombre de Mauriciens qui viennent. Donc, on veut grossir quand même la part touristique pour la vallée. Et de cela, nous avons été vers des associations terre et mer, donc qui est assez unique. Et je pense qu'on a de la chance d'être dans la baie de Maïbo, de Grand-Peur, de faire les gens venir par bateau, connaître notre rivière et de là embarquer à travers les cannes à sucre et venir manger au restaurant. Et je peux vous dire que manger en forêt, c'est quelque chose vraiment de différent. Alors donc, de ces associations, à travers les écoles et à travers un peu de publicité que nous faisons, nous espérons, à travers votre radio aussi, toucher pas mal de gens. Et en venant à la vallée, c'est une manière pour vous de contribuer à la conservation. Juste de venir ici, de venir faire une marche.
Merci beaucoup.
Ben, je vous souhaite la bienvenue et au plaisir de vous revoir.
Vous pouvez retrouver ce reportage en images grâce à François Porcheron sur la page internet de l'émission www.rfi.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, hashtag c'est pas du vent.
La nature selon Boucard avec Boucard.
Aujourd'hui la nature selon Boucard, bonne émission.
Que vous écoutiez en voiture, à la maison ou au chalet, bonjour et bienvenue à tous à La Nature selon Boucard, une émission qui essaye de tendre un pont entre la nature et les comportements humains. Ça marche pas toujours, mais quand même on essaye.
Je dois vous l'avouer, en écoutant son émission, je me suis dit que j'avais trouvé mon maître. Boucard Diouf fait rire les Québécois sur la radio nationale avec son émission Le Monde selon Boucard. Son concept, s'inspirer de la nature pour mieux comprendre les rapports entre les humains. Ce biologiste sénégalais qui manie les mots et les concepts avec une aisance enthousiasmante, c'est Marie-Laure Josselin qui nous l'a fait découvrir. Elle l'a rencontré en plein enregistrement au Parc La Fontaine à Montréal.
Certains profitent des rayons du soleil assis sur l'herbe, d'autres font du vélo. Et puis une trentaine de personnes sont assises dans une petite pièce au cœur de cette verdure.
C'est un plaisir de vous avoir dans cette petite salle bondée de monde pour cette émission estivale. Biologico-humoristico-scientifique.
En ce mercredi après-midi, l'enregistrement de l'émission La Nature, selon Boucard, qui passe sur les ondes de Radio-Canada, est sur le point de débuter. Et pour parler nature, pas question d'enregistrer en studio, c'est donc au cœur du parc La Fontaine que cela se passe.
Et quelle heure ? Est-ce qu'on fait ça à l'heure africaine, Pierre ?
Alors on est prêt, Dominique, on y va.
Que vous écoutez en voiture, à la maison ou au chalet, bonjour et bienvenue à tous à La Nature selon Boucard. Une émission qui essaye, parce qu'on essaye, de tendre un pont entre la nature et les comportements humains.
Au micro, Boucard Diouf, un Sénégalais d'origine, arrivé au Québec en 1991. Né dans le ciné, le jeune Boucard a fait l'université de Dakar en biologie avant de venir, grâce à une bourse de l'Organisation internationale de la francophonie, compléter un doctorat en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski, à 550 km au nord de Montréal.
Aujourd'hui, à La Nature, selon Boucard, les grands singes.
Son amour pour la nature, il le doit à son père, qui le faisait travailler au champ.
Moi, je suis originaire du centre du Sénégal, d'une famille d'agriculteurs. Mon père, il y a des zébus. C'est un serreur qui élève des zébus. On cultive l'arachide, le mil, le sorgho. Alors, d'aller en biologie, ça a été une solution de paresse pour moi. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Depuis que je suis petit, je suis plongé dans la nature. Donc, les insectes, je les connais. Les oiseaux, je les connais. Les plantes, je les connais. Si je m'en vais en biologie, ça va être facile pour moi parce que tout ce qui s'appelle la botanique, la systématique, la zoologie, j'ai une longueur d'avance sur les autres.
Sa thèse de doctorat portait sur un poisson du Québec. On est donc loin des arachides et du mil, on est loin aussi du thon, humoriste et conteur que le Québec connaît désormais.
Moi, c'est à cause d'étudiants comme ça que j'ai arrêté d'enseigner, c'est sûr. Parce que j'ai été 8 ans à l'Université du Québec à Rimouski et je vous assure, un jour, il y a un étudiant qui me ronflait en pleine face pendant que je donnais mon cours.
Pas toujours évident d'intéresser avec des termes parfois, voire souvent compliqués. Et pourtant, ce sixième enfant d'une famille de 9 y arrive. Son secret, l'art du jeu de mots et l'humour.
J'ai toujours trouvé, même quand j'étais enseignant, que l'humour était un moyen de sarcler le cerveau avant de semer. J'ai toujours fait rire les étudiants avant de commencer quelque chose de sérieux. J'ai enseigné longtemps la biochimie structurelle, le métabolisme énergétique, la physiologie humaine aux infirmières. Et les faire rire a facilité beaucoup, beaucoup l'assimilation de la matière. Et un jour, ils m'ont inscrit aux auditions du festival Juste pour rire.
Et comme disait mon grand-père, veuillez accueillir Boucar Diouf.
Et comme ça, j'ai commencé à faire du spectacle. Et comme j'aimais la scène, parce que c'était un peu de l'enseignement aussi, hein. Je suis allé dans l'humour et après deux spectacles, sur l'identité, sur l'immigration, sur le choc culturel, je m'ennuyais un peu et j'ai décidé de ramener la science dans l'humour. C'est un peu ça mon histoire en fait. La science m'a amené dans l'humour et j'ai ramené la science dans l'humour. Et moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est cette possibilité qu'on s'est donnée de sortir la recherche des laboratoires.
Le leitmotiv de Boucar Diouf désormais, c'est de marier humour et biologie.
Monsieur le chercheur, je t'avertis. Tu dois présenter ce que tu fais dans ton laboratoire de façon à ce que ma tante Gertrude, qui habite dans le troisième rang de Matapédia, comprenne ce que tu dis. J'ai combiné là-dedans ce qui me passionne. L'humour d'abord, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la nature. Ensuite, la vulgarisation scientifique, parce que moi, j'adore faire prendre quelque chose qui paraît complexe et de dire aux gens, c'est tellement simple, vous pouvez le comprendre, n'importe qui peut le comprendre. Et ensuite, il y a aussi ce lien que j'essaie toujours de faire entre ce qu'on observe et l'humain, parce que pour moi, tout est une continuité, on n'innove pas grand-chose. L'humain, quand on le regarde du point de vue de sa sexualité, c'est peut-être un intermédiaire entre un bonobo et un chimpanzé. Parce que les chimpanzés, c'est beaucoup l'intimidation, la lutte pour le pouvoir, la violence. Et les bonobos, eux autres, quand des problèmes se posent, ils disent « Ok, on organise et on part tous, puis ça règle l'affaire. » Et donc, François, il dit « L'humain, lui, est au centre. »
Et c'est cette particularité qui donne un ton à son émission. Une émission où il semble être complètement dans son terrain de jeu, tout comme les scientifiques qui l'invitent.
Il s'appelle Daniel Paquette, c'est un éthologue qui a publié un livre que j'aime beaucoup, « Ce que les chimpanzés m'ont appris ». Il est aussi professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Voici Daniel Paquette pour vous.
Moi, c'est quelque chose de spécial, c'était de rencontrer Boucar. Parce que j'ai été à son spectacle à Brossard il y a un mois et demi. Puis j'ai été fasciné de voir comment il réussissait à vulgariser des notions complexes au grand public, parce qu'il y a des notions pas évidentes, là, tu sais, comme l'ovulation cryptique. Lui, j'ose même pas prononcer ça avec mes étudiants, puis lui, il en parle avec le public en faisant des blagues, en réussissant à passer son message.
Ces temps-ci, on voit les politiciens partout à la télé, mais quand tu regardes la société des chimpanzés, la lutte pour le pouvoir, et tu regardes les humains, tu vois quoi?
Moi, ce que je vois, c'est oui. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dominer les autres.
J'appelle à la barre Jean-Claude Simard, qui a longtemps enseigné la philosophie au Collège de Rimouski, et il continue d'enseigner l'histoire des sciences.
D'abord, Boucar, c'est quelqu'un qui a un naturel désarmant, qui a un sens de l'humour exceptionnel. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il arrive à vulgariser la science et à en faire une activité suffisamment ludique pour que les gens se sentent pris, sont passionnés, parce qu'il la présente d'une manière qui est plus que pédagogique, qui est magique.
Quand deux mâles bonobos se rencontrent, pour se dire juste bonjour et ramener la paix, ils se serrent les testicules mutuellement, vous voyez. Je ne pense pas que les hippies soient allés aussi loin.
Des jours et des jours de travail pour trouver 18 sujets différents, surtout de la recherche pour effectuer des liens pertinents entre l'être humain et la nature qui l'entoure.
Il faut choisir les sujets un peu racoleurs pour toucher les gens.
Par exemple?
Pour moi, quand tu fais une émission sur le pigargue à tête blanche, qui est l'aigle pêcheur, l'emblème des États-Unis, ça touche les gens. Les grands singes, ça touche les gens. Comme amateur de vulgarisation scientifique, j'ai toujours dit, il faut, après la présentation, que des gens qui sont dans la salle puissent prendre quelque chose et dire, je vais le raconter à mes enfants ou à ma grand-mère. Tout ce qu'on a appris hier, c'est que si on avait le métabolisme d'un colibri, vous connaissez les colibris,
oui.
Il faudrait manger 400 hamburgers par jour.
Un soupçon d'humour, une pincée de science, une louche de vulgarisation, une recette qui prend.
J'adore cette émission-là. Mais c'est de la radio intelligente.
Ce qui plaît, c'est l'aspect scientifique et l'aspect, comme je disais, là, pour que ce soit simple, les sciences. Aux gens. Moi, j'adore Boucar pour ça.
Je l'adore, je l'aime parce que c'est une nourriture pour le cœur, pour l'esprit. Il amène ça avec philosophie, avec humour, avec intelligence, bienveillance. Je m'en cache pas, je suis une fan.
Se faire raconter les sciences, c'est très intéressant.
Et comme le disait mon grand-père, qui est si sage, pour jouer avec des fesses sans demander la permission, mieux vaut les avoir dans ses caleçons.
Scientifique et humoriste, c'est l'une de ses marques de fabrique. Une autre, c'est son grand-père africain qui l'utilise très souvent dans ses spectacles comme dans l'émission.
Le grand-père que je me suis fabriqué, c'est un archétype. C'est un condensé de tous les grands-pères qui ont alimenté ma soif de verbe, c'est tout. C'est tout ce que j'assume pas tant que ça, parce que j'ai pas cette sagesse qu'on m'attribue, je mets ça dans la bouche de mon grand-père, et du coup ça passe. Et c'était une autre, aussi une façon de dire aux gens, les Africains, on a une façon de penser qui est des fois différente de l'Occident, et voilà ce que nous, on aurait dit à la place. Et c'était une façon de transformer le Québec aussi. Et ça marche, hein. Parce que les gens, je passe dans la rue et l'école bleue me disent, mon grand-père disait, tu dis, ok, au moins j'ai laissé un slogan. Mon frère, ouais. Tu vas m'accompagner pour conclure voilà. Cette émission, n'est-ce pas? Tout ça bien parce qu'on démocratise la science et en plus on africanise le Québec. Moi je dis tout le temps, je suis revenu un vrai trait d'union, j'ai 48 ans cette année, j'ai passé 24 ans en Afrique et 24 ans au Québec. Je suis un entremetteur culturel. J'essaie de prendre l'Afrique et de l'amener au Québec et prendre le Québec et l'amener en Afrique.
Je prends rendez-vous à la semaine prochaine. Nous allons demander est-ce que le chien est le maître de l'homme. Passez une bonne semaine à l'écoute de votre radio publique et à la revoyure.
Bien envie de proposer à Boucar Diouf de faire des chroniques pour ses pas du vent, comme ça vous auriez la chance de l'entendre sur RFI. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Demain, nous serons en direct de la place de la République à Paris à l'occasion du village Alternatiba qui est installé tout le week-end. Plus de 50 000 personnes y sont attendues pour découvrir des solutions pour lutter contre les changements climatiques dans leur vie quotidienne. Nous serons à 11h10 heure de Paris en direct du village des migrations. Si vous êtes dans le coin, passez nous voir. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.